Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de petits sujets. On va parler des sportifs de haut niveau pendant le confinement. On va parler de l'image du corps masculin. On va parler aussi de l'obésité. On va parler de des protéines végétales. Et également de la toxi-infection alimentaire en confinement. Voilà. Bon. Avant de démarrer l'épisode, je voulais juste vous préciser une chose, c'est que hier est sorti, alors c'est pas un, c'est quatre programmes de pompe à la maison. Alors, dans ce programme, en fait, dans ce plan, ce que j'ai proposé, c'est une méthode d'entraînement avec des pompes, de manière à pouvoir travailler, on va dire, un petit peu différemment. C'est-à-dire de pas faire des pompes et puis d'essayer d'en faire plus, mais plutôt d'avoir des niveaux. Donc il y a un niveau prometteur, vaillant, commando et Superman, quatre niveaux, mais également des méthodes de progression. Donc comment on fait pour que chaque séance soit un petit peu plus intense, mais aussi des angles d'attaque différents, c'est-à-dire de pas faire des pompes classiques à chaque fois, de plutôt varier les angles, de varier les techniques et de varier les difficultés. Donc j'ai proposé ça sur le site, je vous mets le lien en description, et dans le, en fait, ça comprend un PDF avec le programme, ça comprend la vidéo formation qui dure 42 minutes, ça comprend également les séances live. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites séances live de 10-15 minutes que vous pouvez mettre directement sur votre télé ou à suivre sur votre téléphone, comme ça au moins vous pouvez le faire en même temps que moi, le programme selon votre niveau. Et en bonus, j'ai mis aussi 16 façons de fabriquer du matériel de musculation à la maison avec du matos qu'on a plus ou moins tous à la maison, pour vous aider à vous forger un petit attirail, on va dire, d'entraînement, sans avoir accès à des haltères, à des bancs, etc. Donc tout ça, je vous mets le lien en description, vous pouvez y accéder directement, et c'est pour les VIP, hein, je le précise, et comme ça au moins vous pouvez démarrer aujourd'hui le petit challenge pompe. Alors c'est pas un challenge à la con, c'est vraiment un programme qui vous aidera à travailler intensément. Voilà, bon, on démarre un petit peu avec les actus du jour. Alors, la première chose, c'est sportif de haut niveau pendant le confinement. Alors, je vais vous lire ce que j'ai annoté dans l'article. Ils disent que le programme d'entraînement diffère peu durant ce confinement. Musculation, gainage et un peu de course pour ceux qui sont adeptes du ballon rond ou ballon ovale. C'est une situation inédite, on n'a pas de recette magique, ils disent. Et en fait, les problématiques pour, par exemple, les rugbyman, c'est tous les entraînements de plaquage, etc., où là, ils sont un petit peu handicapés parce qu'ils peuvent pas le faire. Et comme on sait que la répétition à l'entraînement, c'est ça qui maintient le bon niveau, là, ils sont un petit peu handicapés par ça. Ensuite, on a la nageuse de Marseille, Anna Santamman, qui n'a plus vu l'eau des bassins depuis le 17 mars. Et ce manque commence à se faire ressentir. Elle s'est concocté une routine faite de réveil musculaire, d'étirement, de gainage, de musculation et d'entraînement cardio. Elle dit « J'essaie de me rappeler des sensations de course et de reproduire le même type d'effort, détaille-t-elle. Mais ce n'est pas évident car le corps n'est pas dans le même sens sur terre et dans l'eau. En piscine, le travail cardio est horizontal et non vertical. » Ensuite, il faut essayer de varier pour éviter de répéter les mêmes exercices encore et encore. Parlez-en aux cyclistes qui, depuis le début du confinement, ont réappris les joies du home trainer. Alors, le home trainer, de mémoire, c'est comme des rouleaux là que vous mettez sur votre vélo. Et ça vous permet de faire du vélo d'appartement avec votre propre vélo, en fait. Faire beaucoup d'heures sur le rouleau, c'est trop dur. Le temps ne passe pas très vite, témoigne le Belge Tim Wellens. Lucas Pouille, par exemple, a préféré louer une maison avec un terrain de tennis plutôt que de rester chez lui à Boulogne, Haute-Seine. Il peut aussi s'entraîner à sa guise, mais pas quotidiennement. pour ne pas que les jours deviennent monotones. Cela permet surtout de garder le contact avec la raquette et de s'amuser aussi. Maxime Boué, un cycliste, dit qu'il a pris 2 bons kilos en faisant attention, et pourtant certains soirs il sort de table, il a encore faim. Eh oui, le confinement rend un peu plus sédentaire. On repart sur Anna Santa. Alors je sais pas si on dit Santa Mans ou Santa Man. Elle ne s'est pas encore pesée, mais elle rentre encore dans ses pantalons et voit encore ses abdominaux. Les marqueurs sont bons, sourit-elle. C'est marrant parce qu'on a plus ou moins les mêmes marqueurs de forme physique, hein, les sportifs de haut niveau ou ceux qui pratiquent le fitness. Ensuite, on a une préparation se fait à l'envers. On part de la date de l'objectif et on construit son programme en amont. Éclair Pierre, Jean Vazel. Là, on n'a pas de feuille de route précise. À chaque fois, c'est décalé. Alors, en fait, tout ce que je vois là, bon, les sportifs de haut niveau, ils galèrent. Hein. Ils galèrent dans le sens où, enfin, ils galèrent sauf ceux qui peuvent avoir le luxe de louer une maison avec stade de tennis, avec cours de tennis. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que on va certainement voir, des compétitions avec peut-être des surprises. Parce que finalement presque tout le monde est à la même enseigne aujourd'hui, parce que si par exemple pour les cyclistes ils sont tous sur leur home trainer là, ça va être de plus en plus ça va être de plus en plus équitable, on va dire, et donc du coup ça va être relativement intéressant de suivre peut-être s'ils se tournent, je sais pas, hein, le Tour de France. Mais bon, c'est là où je pense que beaucoup de personnes pensaient que les sportifs de haut niveau avaient tous des super salles privées et tout. Eh ben, on se rend compte que pas tous. Ceux qui ont le luxe d'avoir pu louer une maison avant, ben tant mieux pour eux. Mais il y en a qui sont un petit peu comme vous et moi, c'est-à-dire avec du matos rudimentaire, du matos. Enfin, moi, je suis bien loti, hein, parce que j'avais investi dans du matos de musculation bien avant ça. Mais plus ou moins, on est tous pareils. On fait avec les moyens du bord, quoi. Bon, on passe à un deuxième article qui est un petit peu plus... alors, je vais parler rapidement de ça, oui. Éviter les toxi-infections alimentaires, donc les comment une intoxication alimentaire, en fait. C'est un nouveau terme qu'ils utilisent maintenant. C'est un article de l'ANSES qui dit les bonnes pratiques. Et moi, j'avais noté spécifiquement pour les œufs, parce que les œufs, c'est vrai que c'est un aliment qui est énormément consommé, enfin... très souvent consommé dans le milieu du fitness, même chez les végétariens. Et du coup, ils donnent des petites techniques pour éviter de se toxi-infecter, en fait, hein, avec les œufs. Donc, premier point, il est essentiel de conserver les œufs toujours à la même température afin d'éviter les phénomènes de condensation d'eau à leur surface. Deuxième point, les œufs ne doivent en aucun cas être lavés avant d'être stockés. Le lavage augmente la porosité de la coquille qui permet la pénétration des micro-organismes. Et je sais que pas mal de personnes le faisaient, ça. Ils avaient leurs œufs, quoi. Les œufs cassés ou fêlés ne doivent pas être consommés. Alors, on s'est tous retrouvés en ouvrant la boîte d'œufs, et on a vu qu'il y en a un qui était fêlé, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ça a pas l'air de couler, on le mange, on le mange pas, j'ai pas envie de le gaspiller. Ben là, eux, ils disent de plutôt éviter, de plutôt le foutre à la poubelle, quoi, en gros. Les préparations à base d'œufs sans cuisson, type mayonnaise, crème, mousse au chocolat, pâtisserie, doivent être consommés sans délai après leur préparation ou refroidis rapidement et maintenus au froid pour être consommés dans les 24 heures. C'est marrant parce que je pense que je vais vous donner une petite recette de mousse au chocolat à la fin du podcast. Donc voilà, vous avez quelques petits tips comme ça pour conserver vos œufs, enfin pour éviter les intox alimentaires avec ça. Alors, on va voir un petit peu question par rapport aux protéines végétales. Présence renforcée des protéines végétales dans les rayons. Alors en 30 ans, le nombre de produits contenant des protéines végétales a été multiplié par près de 20, passant de 300 produits en 1989 à plus de 5400 produits en 2019. Selon une étude réalisée chez les principales enseignes de grande distribution pour le compte du groupe d'études et de promotion des protéines végétales, le GEPV, parmi les motivations des industriels de l'agroalimentaire, un marché juteux, le marché des protéines végétales, est en pleine expansion. Il s'élevait à 6,9 milliards d'euros en 2013 et pourrait atteindre les 10 milliards cette année. On voit quand même que c'est pas pour rien qu'on a une monstruosité d'articles sur toutes ces protéines végétales, les légumineuses, etc. On voit que ça rapporte bonbon, et que ben voilà, hein, il y a un marché, donc il y a un marketing, donc c'est dans la tête de tout le monde, et les plus faibles entre guillemets se font avoir, je pense. Les plus raisonnables comprennent les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire que il y a des gros avantages à passer sur une nutrition, on va dire, hybride végétale animale, voire peut-être même un petit peu plus végétal qu'animal. Il y a des avantages, mais il y a des inconvénients à tomber dans l'extrême, c'est-à-dire au 100% végétal, comme il y a des inconvénients à passer dans le 100% animal, comme ça a été la mode aux États-Unis avec la diète carnivore, là. Mais bon, là, on voit bien qu'il y a quand même des enjeux économiques et que, dans tous les cas, ça va avoir un impact sur ce que vous allez voir dans les rayons, sur les packaging, sur les publicités, sur les recommandations de santé, sur tout un tas de choses. Alors, au premier rang des produits montés en puissance ces dernières années, les analogues de la viande ou steaks végétaux représentent 6% des produits recensés dans cette étude. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais moi, je me souviens avoir vu le démarrage, entre guillemets, vous savez, des steaks de soja, etc., où il y avait assez peu de produits de ce type dans les grandes surfaces. Il y en avait peut-être deux variantes. Il y avait quoi? Il y avait le truc à la tomate et puis le truc au maïs, par exemple, et puis c'est tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un choix énorme et finalement, on arrive à, quels que soient ses goûts, il y a celui qui va avoir le goût de fromage, celui qui va avoir le goût de viande, celui qui va avoir le goût de lasagne, etc. Et tous ces steaks un petit peu végétaux, en fait, c'est ni plus ni moins, alors pour beaucoup, j'ai regardé un peu les ingrédients, que des aliments relativement transformés. Hein. Il y a beaucoup de... Pour moi, en fait, ça, c'est la mauvaise façon de se tourner vers une diète plus orientée végétale. Pour moi, une diète orientée végétale, c'est se tourner vers des produits bruts, mais d'origine végétale, tout simplement. Donc ce rayon en 2 ans a été multiplié par 2 en termes de référence selon Hubert Boclet, délégué général du GEPV, une tendance portée essentiellement par les flexitariens, soit les consommateurs qui prônent une consommation de viande modérée, et représente aujourd'hui selon Hubert Boclet à peu près un tiers de la population française, soit presque 20 fois plus que les végétariens stricts. De plus en plus de gens choisissent un régime flexitarien, végétarien ou végétalien pour des raisons personnelles de santé ou de respect de l'environnement. Donc on continue un petit peu parce que j'ai noté quelques autres articles. C'est nourrir le monde en protéines, un défi à notre portée. Alors là, ils disent que la solution la plus simple serait de réduire le gaspillage alimentaire qui représente environ un tiers de notre production de denrées alimentaires. Si on le réduit de moitié, des travaux montrent que cela est très efficace pour alimenter de façon satisfaisante toute la population humaine tout en réduisant l'impact carbone de notre alimentation. Bon, je demande à voir quand même les... Enfin bon, je serais pas aussi optimiste en travaillant que sur le gaspillage, bien que le gaspillage, je pense qu'actuellement, il doit y en avoir un petit peu moins. Ouais, donc ce qui a aussi la solution la plus simple, donc de réduire le gaspillage alimentaire, bon, comme je disais tout à l'heure, ça passe pas que par ça. Bon, ensuite ils disent que des travaux montrent que l'on ne mange pas assez de protéines animales, au contraire en Europe et aux États-Unis on a tendance à manger trop. Donc l'idéal serait d'avoir 50-50, donc protéines végétales, protéines animales, mais nous mangeons plus autour de 60 à 70% de protéines animales dans le monde occidental. Au lieu d'avoir un régime compliqué basé sur la culture du soja provenant d'Amérique du Sud, il faut rendre les élevages plus autonomes avec des aliments que l'homme ne consomme pas. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Bon, dans les pays africains, eux, ils en mangent pas assez, nous, on en mange trop de protéines animales. Moi, je pense que il faut pas trop taper sur les sportifs avec ça. Mieux vaut revoir un petit peu les menus des cantines et des restaurants et tous ces trucs-là. Pourquoi ? Parce que eux en consomment sans s'en rendre compte des fois 3 sources. Donc les œufs mimosa ou la charcute en entrée comme on disait, la viande ou le poisson en plat du principal, et puis le yaourt ou le fromage en dessert. Donc c'est plutôt là la multiplication des sources de protéines par repas, dans les préparations, dans les idées, dans les conceptions des repas des Français, et puis même des autres personnes. Le sportif, finalement, comme je disais, il a plutôt une monosource de protéines par repas, voire, en fait, il va avoir 2 sources de protéines, mais ça sera poisson et viande, et associé, enfin, poisson ou viande associé à légumineuses, par exemple, pour avoir du végétal et de l'animal. Donc, je pense qu'il faut plutôt essayer d'éviter le gaspillage là-dedans, donc passer à une monosource de protéines, ou en tout cas, juste s'il y en a deux, que ça soit végétal et animal, mais ne pas multiplier la source de protéines animales dans un même repas. Et ça, là où on a le plus de façons de gagner, c'est de taper plutôt sur ceux qui font les menus, finalement, qui préparent justement les cantines, les trucs comme ça, parce que c'est à mon sens là où il y a le plus d'incohérence. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Parce qu'on a été coupé, en fait. J'ai dû reprendre un petit peu l'enregistrement du podcast. Ouais, alors c'était l'article des 4 Américains sur 10 sont maintenant obèses. Donc un gros problème est le rythme de vie. Et tout le monde est pressé. Bon, en gros, ils disent que le monde actuel, donc le rythme de vie des gens aujourd'hui, c'est d'être en permanence sur le téléphone ou occupé pendant qu'ils mangent. Et donc, ça pourrait être un des facteurs de l'augmentation encore de l'obésité. Je pense pas que ce soit le seul, il y en a d'autres. Mais ce qui serait intéressant de voir, et là, ce serait à vous de faire le travail, c'est de voir si, depuis le confinement, vous êtes plus en prise de poids, en perte de poids. Ou toute autre situation, on va dire un petit peu, je sais pas, plus d'énergie, moins d'énergie, etc., etc. Par rapport à ça, parce que aujourd'hui, normalement, vous devez être capable, avec le confinement, de pouvoir manger si vous avez des enfants en famille, donc plus posé. Vous êtes plus sur votre coin de bureau au travail ou dans un parc ou autre, sur le pouce en même temps au téléphone et tout. Donc voir si ça a un impact sur votre tour de taille. Et enfin moi je pense, comme je disais avant qu'on soit coupé, que pour moi la personne qui aura le plus d'impact, c'est la personne qui a un travail physique, parce que cette personne-là ne peut pas télétravailler, donc va s'ennuyer, donc va potentiellement plus manger, va moins se dépenser, et ça va être plus compliqué pour elle pour reprendre le travail après, parce qu'elle sera en surpoids, donc une plus grosse carcasse à trimballer. Donc à cette personne-là, je lui recommande fortement d'avoir une activité physique durant le confinement. Donc soit elle sert de ses compétences professionnelles pour bricoler sa baraque, soit elle fait du sport tout simplement. Et pourquoi? Pour maintenir sa charpente, sa masse musculaire, sa forme physique et ne pas prendre trop de poids, parce que sinon, quand elle va retourner au boulot, ça va vraiment être très 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 compliqué. Je passe sur l'image du corps masculin. Donc au cours des dernières décennies, les figurines d'action pour enfants comme G.I. Joe et Superman sont devenues plus musclées. Et plus récemment, Facebook, Instagram et d'autres médias sociaux sont devenus des lieux qui célèbrent ces extrêmes. Alors, par les images des célébrités qui sont hyper sèches et les influenceurs aussi. Cela semble avoir eu un impact, car dans une étude de 2019 qui comprenait 7000 jeunes hommes américains âgés de 18 à 24 ans, plus d'un sur cinq a signalé avoir des TCA, des problèmes alimentaires liés à le désir d'avoir un corps musclé. Alors pour grossir, ils vont faire des grosses prises de masse, donc se suralimenter, prendre des stéroïdes ou des compléments alimentaires. Alors je disais avant qu'on soit coupé que je ne mets pas dans le même panier les compléments alimentaires, la suralimentation et les stéroïdes. Les stéroïdes, c'est pour moi une problématique autre que le choix de la personne d'en prendre. Pourquoi? Parce que ce que je peux constater, c'est que quand on voit des personnes qui prennent des stéroïdes et qui l'assument et tout ça, c'est un choix de leur part, il y a tout un petit monde naïf qui va regarder ça et qui va en tirer des conclusions beaucoup trop rapides. Je m'explique. Vous prenez un individu qui ne fait pas forcément de diète, qui s'entraîne, mais qui fait pas forcément de diète, qui prend des stéroïdes. Il va avoir un physique amélioré grâce aux stéroïdes, mais qui sera pas un super super physique, puisqu'il maîtrise pas une des cordes qui est la nutrition. Et donc, le résultat qu'il va donner va pas être un physique tip-top, mais pourtant il prend des stéroïdes anabolisants. Donc les plus naïfs, les plus néophytes vont se dire « Attends, ce gars-là, s'il prend des stéroïdes, il a tel type de physique, ça veut dire que tous ceux qui ont un meilleur physique en prennent forcément. » Et c'est là où en fait où il y a un gros problème. Parce que c'est très compliqué de détecter quelqu'un qui fait très bien le travail, c'est-à-dire qui va bien s'entraîner, bien manger, sans prendre de stéroïdes, et durant des années, donc du coup avoir un bon physique qui s'est travaillé sur le long terme, d'une personne qui l'a eu très rapidement avec des stéroïdes, d'une personne qui justement n'a pas forcément un super physique mais qui prend des stéroïdes aussi, donc ça crée un amalgame, ça crée vraiment pas mal d'embrouilles dans la tête de beaucoup de personnes. Et donc du coup, ils essayent de trouver des réponses simples, fiables, quantifiables et tout ça. Et pour eux, bah, c'est la quantité de masse musculaire, le visuel et tout ça. Moi, je pense honnêtement que il y a une vague de jeunes dopés qui sont arrivés, c'est évident. Mais il y a également, il faut pas les oublier, des jeunes qui travaillent dur pour ça, qui travaillent dur, c'est-à-dire qu'ils vont faire attention à leur diète, faire attention à leur récupération et leur entraînement, sans toucher aux substances interdites. Et ces personnes-là, en fait, on les met un petit peu dans le même panier parce qu'on n'arrive pas à trop faire de différence. Parce qu'il faut pas oublier que, alors, on est tous plus ou moins différents, même si dans les grandes lignes, on se ressemble tous, mais on a quelques différences et on va pas tous réagir de la même façon à l'entraînement. Et il y en a qui peuvent avoir de super résultats et d'autres des moins bons. Et ça, bah, c'est quand même compliqué à quantifier. Je pense que le débutant devrait rester loin de tout ça. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est s'inspirer. Moi, je recommande qu'il s'inspire de tout ce qu'il voit. C'est-à-dire que si, de pas se brider. Si ce qui l'inspire, c'est un mec dopé, tant pis pour lui. Enfin, c'est pas grave. Le but, c'est après, c'est la faiblesse de chacun. Chacun a la liberté ou non de toucher à ces substances-là. À partir de 18 à 24 ans, on est majeur. Même si on est faible, on est quand même majeur. Voilà. Après, c'est la responsabilité de chacun de prendre la décision de le faire ou non. Je veux dire, c'est plus des gosses à cet âge-là. Hein. Enfin, en tout cas, s'ils le sont encore, c'est qu'il y a un problème. C'est à eux de se sortir les doigts du cul pour devenir des hommes. Mais cette problématique des stéroïdes et tout ça pour avoir une image plus parfaite, moi, je pense que c'est surtout lié au désir de rapidité. Parce que je pense que beaucoup de personnes se rendre compte au bout de 3, 4, 5 mois, voire un an de muscu et un petit peu de diète que les résultats viennent, mais pas super rapidement. Et donc du coup, ils ont peu de temps pour agir, parce que par exemple, une scolarité, c'est pas du long terme, et quand il y en a qui attirent plus que d'autres grâce à justement une belle masse musculaire ou beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, on est un petit peu dans l'urgence, et l'urgence, ça fait utiliser prendre des risques et utiliser des substances un petit peu illicites. Donc j'ai pas de message, moi, à donner pour les personnes qui veulent en prendre et essayer de les décourager. Chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, en France, c'est interdit et c'est illégal, interdit et tout ce que vous voulez, nocif. Mais je suis pas votre père. C'est votre choix. Vous faites votre vie et puis voilà. Moi, c'est juste cette problématique qui est l'image du corps masculin que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui, quoi. Ensuite, ils disent qu'en plus d'être des habitudes, de créer des TCA, l'obsession de l'image corporelle peut entraîner une maladie appelée de la dysmorphie, qui peut vous convaincre en fait que vous êtes ni assez musclé ni assez sec. Donc ça, moi je donne une petite solution pour ça. Comparez-vous régulièrement à ce que vous étiez, c'est-à-dire prenez régulièrement des photos de vous d'avant. Donc j'espère que vous en avez en stock dans les albums de famille ou autres. Et quand vous commencez à vous trouver pas assez musclé dans le miroir ou pas assez sec ou je ne sais quoi, eh ben prenez une photo du physique que vous aviez à vos débuts et pour vous rassurer. Arrêtez de vous comparer trop. Moi, je me souviendrai toujours d'un jeune que je connaissais, qui avait une dizaine d'années de moins que moi et qui était tellement absorbé par ses abdominaux qu'il, en fait, il avait un physique, il conservait un physique d'enfant. C'est-à-dire qu'il avançait dans les années, donc il devenait un homme, entre guillemets, par l'âge. Quand je dis un homme par l'âge, c'est qu'il avançait dans les années, mais en fait, physiquement, il avait un corps d'enfant. Parce qu'il se sous-alimentait tellement pour rester avec des abdos, que son corps, il voulait même pas prendre de la masse musculaire, et puis il était fatigué, et puis il était faible, en fait. Et à un moment donné, il faut quand même être conscient que, d'ailleurs, beaucoup de personnes me disent « mais tu manges pas beaucoup, etc. » parce qu'ils sont pas dans mon quotidien. Mais cette problématique de se sous-alimenter, de faire des jeûnes intermittents, des trucs sans glucides, etc. tout le temps en permanence, vous allez conserver un physique un peu frêle et un peu faible dans le sens où qui assez peu résistant, quoi. Donc moi, je pars du principe après que votre désir, c'est quand même d'avoir une certaine masse musculaire, hein. Sinon vous écouteriez pas ce podcast, je pense. Mais bon, voilà, la petite problématique que rencontrent les hommes aujourd'hui, et j'en suis convaincu que c'est beaucoup plus que ce qu'on en pense, parce que il y a cette fierté masculine qui veut que les personnes, les hommes ne se plaignent pas, et donc du coup, voilà. Mais je pense qu'il y a, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui en souffrent aujourd'hui et qui n'en parlent pas. Et je pense que le meilleur conseil déjà, c'est d'arrêter de vous comparer en fait à ce que vous voyez. Si vous savez que vous êtes faible par rapport à ça, arrêtez de vous comparer. Moi, je sais que la comparaison peut être une bonne chose à partir du moment où on a une certaine force mentale, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre conscience de certaines choses. On peut se comparer à quelqu'un d'autre. Moi, je le fais régulièrement de manière à me tirer vers le haut. Et ça, j'aime ça. Mais si j'étais faible mentalement, je le ferais pas. Pourquoi ? Parce que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en voyant quelqu'un de mieux, on va se dévaloriser. Et se dévaloriser, ça va amener quasiment que du négatif et des comportements déraisonnables par rapport à sa santé, à son alimentation et tout ça. Donc voilà un petit peu les conseils que j'avais. Bon, on passe à une note un peu plus positive d'ailleurs, là, pour vous réconcilier un petit peu. Vous pouvez faire quelque chose. Alors, je vais vous recommander un petit truc rapide. Vous savez que un des desserts les plus, entre guillemets, sains à mes yeux, c'est la mousse au chocolat. Pourquoi ? Parce que c'est des blancs d'œufs montés en neige. Donc bon, ils sont crus, d'accord, mais ça, c'est quand même un peu plus digeste que si on les mangeait liquides comme ça. Et après, c'est du chocolat noir et de bonne qualité, de préférence, si vous êtes plutôt tourné vers des chocolats à 90% et tout ça. Donc en gros, pour une personne, une mousse au chocolat, c'est quoi ? C'est un œuf, c'est 25 grammes de chocolat noir. Donc, chocolat noir, vous prenez du 90%, vous prenez 25 grammes de ce chocolat, et vous prenez un œuf et de l'extrait de vanille. La technique, c'est simple, la recette est très simple. Avec votre batteur, vous montez, alors déjà, vous séparez le jaune du blanc, vous mettez le blanc dans un bol, un récipient assez haut quand même. Vous le battez avec votre batteur à œuf, là, classique, vous faites monter ce blanc en neige. Donc il faut qu'il soit le plus épais possible. Pendant ce temps-là, au bain-marie, vous faites fondre vos 25 grammes de chocolat. Donc doucement, faut pas que ça brûle, sinon ça va pas marcher. Une fois que le chocolat noir est fondu, vous mettez le jaune d'œuf. Donc vous mélangez les deux. Et vous incorporez délicatement le chocolat au blanc en neige. Vous mettez ça dans un bol, un ramequin, vous le laissez dans le récipient et vous mettez au frigo pendant 2-3 heures pour que ça durcisse un petit peu. J'ai oublié de dire que vous mettez l'extrait de vanille pendant que vous mélangez votre chocolat au jaune d'œuf. Voilà, c'est difficile de faire une recette à l'audio, mais bon, voilà à quoi ça ressemble. Dans les faits, qu'est-ce que c'est ? Un œuf, 25 grammes de chocolat noir. Et dans la réalité, c'est un super dessert. Qui va être légèrement protéiné, mais surtout qui va vous casser un petit peu la routine. Et je sais que pas mal de personnes se tournent vers, je sais pas moi, des préparations avec du sucralose, du machin, des édulcorants et tout. Là, vous avez un truc avec du chocolat noir à 90% qui va vous apporter quand même pas mal de petits avantages santé. Vous avez votre œuf, donc ça va. L'extrait de vanille, vous avez pas de sucre ajouté. Ça, c'est quand même quelque chose de, moi je trouve, relativement intéressant. Ça peut être un petit dessert du week-end sympa, un petit dessert de la semaine, même quand vous craquez, qui peut être intéressant. Et donc voilà. Bon, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que pendant le confinement, moi, j'ai fait pas mal d'articles et j'ai ressorti des tuyaux, des archives, certaines choses qui peuvent servir pendant le confinement. Donc, je vous mets tout ça dans la description, notamment le programme que je viens de sortir sur les pompes à la maison, mais également les 16 petites astuces que j'ai pour fabriquer du matos de sport sans matos de sport. Et je vous mets tout ça en description, vous pouvez y accéder en lien et juste cliquer. Donc merci à tous, d'ailleurs aussi pour tous les avis que vous mettez sur Apple Podcast là. J'ai vu vos avis, je les lis, ça me fait vraiment vraiment plaisir, notamment quand vous me dites que vous attendez chaque semaine le nouvel épisode, ça me fait vraiment vraiment plaisir et c'est ce qui m'encourage à vraiment à rester fidèle au niveau des horaires. Donc là, vous voyez, on est le 13, donc le jour de Pâques. Et j'enregistre le podcast pour que vous puissiez l'avoir mardi à 8h, donc le 14 à 8h. Et donc voilà. Bon, je m'arrête ici. Tous les liens sont en description. Et très bonne semaine à vous. Et continuez à rester prudent. Et merci à tout le personnel soignant et tous ceux que j'ai déjà cités précédemment pour leur travail durant le coronavirus. Voilà. À plus. Bye bye. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.